Jésus disait aux foules, lorsque vous voyez un nuage se lever au couchant, aussitôt vous dites que la pluie vient, et ainsi arrive-t-il. Lorsque c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il va faire chaud, c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez discerner le visage de la terre et du ciel. Et ce temps-ci, alors, comment ne les discernez-vous pas? Et pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin d'en finir avec lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'exécuteur, que l'exécuteur ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant que tu l'aies rendu, même jusqu'au dernier sou. Gloire à toi, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi,
sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Eh bien, puisque nous sommes dans la méditation de la sagesse, nous pouvons donner à cette réflexion que je vais faire le titre de « Sagesse, de discernement ». Comment, dit le Seigneur, ne reconnaissez-vous pas le moment où nous sommes? Eh bien, la première fonction de la sagesse, c'est de comprendre les réalités afin, avons-nous dit, d'en tirer des comportements pratiques. Le sage réfléchit à partir de ce qu'il voit. Il s'en fait un jugement et il agit ensuite conformément à sa compréhension des choses. Les questions, avons-nous dit, que se pose le sage sont diverses. Elles concernent le sens de l'existence, la question de la mort, qui est traitée dans toutes les cultures, l'attitude de Dieu envers les humains. À l'opposé, l'impie, c'est-à-dire l'homme qui ne cherche rien d'autre que ce qu'il vit et ce qu'il voit sur la terre, ne peut trouver un sens qui transcende les réalités terrestres. Son souci est de jouir au mieux des biens présents. Enivrons-nous de vin, de parfum, laissons partout des signes de notre liesse, car telle est notre part, tel est notre lot sur la terre. Et non content de son orgueil, dit le sage, il s'en prend à l'homme sensé,
Il lui reproche son attitude. Tentons des pièges parce qu'il nous gêne, cet homme, parce qu'il s'oppose à notre conduite, parce qu'il nous condamne. Condamnons-le à une mort honteuse. La sagesse, elle, appelle. Elle nous dit, convertissez-vous à mon exhortation. Mais puisque j'ai appelé, que vous n'avez pas toujours répondu, puisque souvent vous avez négligé mes conseils, et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me moquerai quand viendra pour vous l'épouvante comme l'orage, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas. Ce discours de la sagesse est vraiment une illustration de la prédication du Seigneur, qui, en tant que vrai sage, a repris toute la tradition d'Israël qu'il avait lui-même inspirée. C'est l'arrière-fond de toutes les paroles de l'Évangile, et même de ce jour. Quand vous voyez un nuage, dit le Seigneur, s'élever au couchant, vous dites, la pluie va venir. Et quand souffle le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. C'est le premier moment de l'observation qui permet ensuite de faire un jugement. Ce premier temps semble pouvoir être facile. En fait, nous connaissons les divergences d'opinion sur tous les faits d'actualité. Nous sommes souvent surpris d'entendre des conclusions auxquelles on ne s'attendrait pas. Tout dépend du lieu où on réfléchit, tout dépend de la personne qui se prononce. Les divergences apparaissent même au sein de l'Église. Les courants dans l'Église aujourd'hui sont loin d'être complémentaires et de réaliser une unité dans la pluriformité. Ils aboutissent le plus souvent à des oppositions. Alors donc, il y a bien des préalables qui conditionnent le jugement et même l'observation. Et c'est pourquoi le dialogue, souvent, est si difficile. Le Seigneur semble aujourd'hui nous inviter à étayer nos réflexions sur un terrain commun et solide, celui de la nature, avec sa consistance, et de la prendre comme lieu de sagesse d'interprétation. Certaines philosophies ont reconnu l'importance du réel pour définir la vérité. Et saint Thomas nous a donné cette thèse suivante, « La vérité est dans la conformité du réel avec la pensée ». C'est-à-dire que je dois reconnaître ce que le réel m'enseigne à tous les niveaux. Eh bien, c'est ce que nous indique le Créateur par ses œuvres, qui doit nous guider dans notre recherche du sens des choses. Et saint Paul a suivi cet enseignement quand il écrit que la présence du Seigneur se fait voir par ses œuvres. Son éternelle puissance, sa divinité, c'est son univers, avec ses lois merveilleusement réglées. C'est dans cette création que l'esprit peut s'engager dans les grandes voies de l'être, en étant sûr de ne pas se tromper. C'est la consistance des choses. Les réalités de l'univers ont été fermement construites par la sagesse divine, et elle dure comme la montagne, sur la base inébranlable, comme la mer, bien que fougueuse, qui ne voit pas envahir la terre. La beauté partout répandue des plus petites créatures aux plus rayonnantes comme le soleil. La force de la vie qui renaît des cendres et nous assure la vie éternelle. Toute la création sortie des mains du Créateur, nous dit la Genèse, est parfaitement réussie, jusque dans les moindres détails, par la parole divine. Il suffit d'ouvrir nos yeux sur les réalités de ce monde pour voir cette façon dont le Seigneur a parfaitement réussi son œuvre en toute petite chose. Ce Créateur, c'est le Seigneur Jésus lui-même, en qui et par qui tout a été créé, au ciel et sur la terre. On comprend alors qu'il puisse donner comme terrain d'interprétation fiable tous les signes naturels. Mais hélas, ces signes ont-ils aujourd'hui encore la même valeur? Est-ce que nous n'avons pas détérioré la belle mécanique de la terre par notre incroyable pollution de toutes sortes? N'avons-nous pas déréglé ce qui était les rythmes réguliers des temps et des saisons? Ne sommes-nous pas épouvantés d'apprendre les tsunamis, les tempêtes, les réchauffements des glaciers, de la calotte terrestre, les incendies? N'avons-nous pas tout déréglé? Et aujourd'hui, nous en éprouvons les conséquences désastreuses. Faut-il lire dans ces transformations indues, dues à l'intervention maléfique de l'homme, une fin du monde? Il semble certain que ce soit la fin d'un monde stable que les anciens ont connu et qu'ils regrettent plus encore que ceux qui ne l'ont pas connu. Alors le Seigneur nous oriente vers une attitude de sagesse envers la réalité actuelle et aussi une vision du monde à venir. Car ce monde est la propriété de Dieu, nous a dit la sagesse, et non pas de l'homme. C'est Dieu qui l'a construit. Il y a donc un péché grave à le corrompre, à s'en faire le maître, à l'utiliser à sa propre convenance, sans référence au Créateur. C'est ce que nous faisons en ce temps d'impiété. Alors le sens de ce passage d'Évangile est de nous réorienter vers une vraie sagesse, de nous convertir tant qu'il est encore temps. Mais qui entendra la parole de Dieu? Viendra la parole du jugement. Le temps se fait court, disait saint Paul. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour est arrivé. Comme il s'y est en plein jour, conduisons-nous avec dignité. Le Seigneur s'est fait sagesse pour nous rejoindre, nous enseigner le vrai chemin qui mène au royaume. Il reprend ce que la sagesse disait. J'ai dressé ma table, dépêché mes servantes et proclamé en haut de la cité, qui est simple, qu'il passe par ici. Et à l'homme insensé, quitte la niaiserie et tu vivras. Marche droit dans la voie de l'intelligence. Notre grande sagesse à nous, c'est de reconnaître en toute chose la présence aimante du Seigneur envers nous. Et la reconnaissance que ce monde qui lui appartient a été sauvé par lui, par sa croix et par sa résurrection. Et ce sera la réflexion que nous allons faire cet après-midi de Christ, sagesse de ce monde.